c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au programme de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé aujourd'hui, deux coups de cœur cinéma. Le premier avec, dans un instant, l'équipe du film Arrête avec tes mensonges. Olivier Payon, le réalisateur, sera accompagné de Guylaine Landès, Guillaume de Tonquédec. Et celui qui a inspiré le film, le romancier Philippe Besson, également viendra nous parler de son histoire. Nous aurons le plaisir également de passer en revue nos coups de cœur télé avec aujourd'hui, eh bien justement, Marie Malia qui est à l'affiche de L'Abîme. Le final, c'est mercredi. Sur France 2. Les deux derniers épisodes de Crime Parfait, c'est demain sur France 3. Arthur Mazé, l'un des héros du duo avec Isabelle Gélinas qu'il forme depuis 6 ans, va tirer sa révérence avec ses deux derniers épisodes. Il sera avec nous pour en parler. On aura également le plaisir de consacrer un deuxième coup de cœur ciné, justement film à la belle étoile. Jess Riad et Sébastien Tullard, Riad Belaïch, seront donc nos invités pour en parler. Et puis enfin, Marie Henry, une des héroïnes de Plus belle la vie, a joué le rôle rappelez-vous de Léa Nebout, elle sort son premier single qui s'appelle « Tout simplement, tu peux partir ». On va l'écouter aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné s'appelle Arrête avec tes mensonges. Le film sort au cinéma. On va recevoir toute une partie de l'équipe aujourd'hui. Guylaine Landès et Guillaume de Tonquédec vont nous rejoindre d'ici quelques minutes. Mais on va commencer avec le réalisateur Olivier Payon qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être là. Une histoire bouleversante qu'on a découvert il y a plusieurs mois maintenant au Festival d'Angoulême. L'histoire de Stéphane Delcourt, qui est un écrivain très connu et qui fait des best-sellers régulièrement et qui est rappelé un peu sur les terres, on va dire, où il a grandi, où il a passé son adolescence. Et il y a bien des choses qui se passent, mais je vais vous laisser raconter parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire, en tout cas sur ce film.
Il y a plein de choses qui se passent, bah oui, c'est ce que le film raconte. Non, c'est vrai qu'il débarque après 35 ans dans sa ville natale, où il n'a jamais voulu revenir, on découvrira pourquoi. Et là, il tombe sur un jeune homme qui lui rappelle son premier amour étant un garçon. Donc voilà, qu'il se retrouve face à ce garçon qui finalement n'aurait pas dû exister. Hein. A priori, son premier amour aurait dû être homosexuel. Il découvre qu'il a eu une femme, etc. Et c'est l'histoire, la rencontre entre les deux, puisqu'on se rend compte que ce fils a souffert des secrets de son père. Il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et cet écrivain a souffert de cet amour, puisque son jeune premier amour a disparu du jour au lendemain. Voilà. Et les deux vont un peu reconstituer les
puzzles.
Et voilà, c'est une histoire de un lien filial va naître, ça va vers l'apaisement sur les secrets, etc.
Alors, c'est un film qui est adapté du livre de Philippe Besson, qui est un écrivain bien connu dans notre région. Il a été facile à convaincre, Philippe ?
Il a été facile, c'est quand même son best-seller, hein. Je crois qu'ils ont vendu plus de 200 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un livre comme ça, et donc on était plusieurs sur le coup, j'avoue, et je pense que ce qui l'a convaincu, c'est le roman est très tourné vers le passé, sur cette histoire d'amour 84, et moi ce qui m'intéressait c'était de raconter plus le présent. Je trouvais ça très original dans son bouquin, cet écrivain qui tombe sur le fils de ce premier amour, et je lui ai proposé d'axer le film là-dessus, et je crois que c'est ce qui lui a plu et c'est ce qui l'a convaincu.
Ouais. Guillaume de Tonquédec, qui incarne Stéphane, le héros, ça a dû être un bonheur de pouvoir avoir un comédien comme ça pour incarner Stéphane.
Absolument, et d'abord il est formidable, il est gentil, tout ça, enfin non mais vraiment. Et le montage du film a été assez long, et quand on a pensé à lui, d'un coup, ça a été une évidence. D'abord, il a un petit air de ressemblance, et puis il a le même rythme, le même débit, etc. On a travaillé la ressemblance dans les costumes, les coiffures, etc. Et je pense que Guillaume avait envie, il a joué dans de grandes comédies ou à la télé des rôles plus dark, mais là, un rôle un peu sensible comme ça, il l'avait jamais fait. Donc je pense que c'était une période de sa vie où il avait envie de jouer ça. Du coup, il s'est investi à fond, et puis sa rencontre avec Victor aussi, Belmondo. C'est un peu fait, un peu comme dans l'histoire du film. D'ailleurs, au début, ils se reniflent, ils se connaissent pas. C'est ce qui s'est passé. Ils avaient jamais joué ensemble. Et il y a eu un vrai lien qui s'est créé en tournage, comme un peu l'histoire du film. Donc c'était assez beau d'assister à ça.
Pourquoi Cognac? Parce qu'évidemment, c'est déjà les terres de Philippe. Mais c'était vraiment le but aussi de rester sur ces terres, justement.
C'est vrai, je me suis pas beaucoup posé la question. Donc, le livre se passe à Barbezieux, mais il se passe aussi à Bordeaux, il se passe aussi à Paris. Et moi, je voulais une unité de lieu. Il fallait le roman se passe sur plusieurs années. Moi, je voulais le temps d'un week-end. Et à un moment dans le roman, il y a écrit, c'est une toute petite ligne, que les parents de Thomas, donc son amour de jeunesse, sont viticulteurs pour le cognac. Et il se trouve que moi, à l'époque, je venais de faire un documentaire chez Annecy à Cognac. Donc, je connaissais bien ce milieu et je trouvais que c'était assez facile de transposer de Barbezieux à Cognac. Et donc, j'ai mis dans le film beaucoup de mon expérience, parce que là, l'écrivain arrive et puis se retrouve à une espèce d'événement pour une marque fictive. Et il y a des Américains, etc., puisque le cognac est plus connu aux États-Unis qu'en France, quelque part. C'est vraiment la boisson star là-bas. Et donc, je me suis aussi nourri de ma propre expérience pour nourrir le contexte du film.
Quels ont été pour vous les meilleurs moments de tournage? Est-ce que ça a créé des difficultés d'être sur deux périodes, justement?
Non, sur les périodes, non, ça n'a pas été difficile, si ce n'est que comme on n'était pas un blockbuster américain, il fallait se débrouiller pour recréer 84. Moi, c'est aussi comme Besson, j'ai 2 ans de moins que Philippe, donc enfin bref, on est de la même génération.
Les décors du lac sont magnifiques, là, le lac bleu, là, avec son eau turquoise.
Ah bah oui, mais alors ça, on n'a rien recréé, ça existe, c'est dans votre région. C'était magnifique quand j'ai découvert ça. On voulait absolument tourner là-bas, quoi. C'est vrai que c'est aussi un ode. Le roman est très intimiste et il se passe beaucoup. C'est un récit dans un café, etc. En cinéma, vous pouvez pas faire ça. Et là, j'ai écrit des scènes pour que ce soit à l'extérieur, pour rendre aussi un ode à la région. Et c'était un tournage assez heureux. Moi, c'est mon 6e long métrage. Et là, il était particulièrement heureux. Sincèrement, je pense que ça s'est fait avec la ville de Cognac. Je veux dire, les habitants. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de Cognac qui jouent leur petit propre rôle. On a un peu tourné partout. Moi, je viens du documentaire et j'aime bien mélanger ça. Et par exemple, dans l'histoire, à un moment, il y a Victor Belmondo qui va, vous verrez, qui a sa grand-mère et qui se passe dans une ferme. Et on cherchait une ferme, donc on a trouvé. Et la fermière qui a la retraite maintenant, Marie-Lou Gallet, qui a 81 ans à peu près, elle me faisait visiter sa ferme, elle me parlait de son métier quand elle était viticultrice pour le cognac, et puis d'un coup elle s'est mise à me parler de la chorale, et puis que quand elle était jeune elle voulait faire du théâtre, et puis d'un coup on a parlé cinéma, et puis elle m'a dit que son acteur préféré c'était Jean-Paul Belmondo. Elle ne savait pas que Victor était dans le film. Et d'un coup ça m'a donné l'idée de lui proposer de jouer le rôle. Alors elle a tout de suite dit oui, elle était extraordinaire, elle était pas du tout fatiguée, elle voulait tout le temps faire les scènes. Et quand elle a appris que c'était Victor Belmondo, vous imaginez le choc. Et ce qui est drôle,
elle a de sacrée tirade en plus, hein.
Elle a de sacrée tirade et qui se nourrit un peu de son réel, hein. Elle parle de la chorale, en fait elle parle de sa vie. Là où Victor a été génial, c'est que nous sur le tournage on savait plus si c'était vrai, si c'était pas vrai, quoi. Et à un moment elle le prend à part et elle me dit, mais donc je suis ta grand-mère dans le film, donc c'est un peu comme si j'étais la femme de Jean-Paul. Et voilà, et il y a une très belle photo des deux, et c'est vrai que ça c'est un des moments les plus heureux.
Bon, on va recevoir Guylaine et Guillaume. Juste avant de se quitter, je voudrais qu'on salue aussi les deux jeunes comédiens qui incarnent justement les personnages de Stéphane jeune et de son premier amour. Ils sont incroyables les deux. Il y a Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean.
Absolument, Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean, qui ont été d'une maturité et de jeu et d'échange. C'était comme travailler avec Guillaume, et puis c'était deux tournages un peu séparés comme ça, et il y a eu un moment où ils étaient là le même jour, d'ailleurs il y a une scène, on ne raconte pas, où ils sont tous les deux, et là ça a vraiment fini de totalement unifier le tournage, puisqu'ils se sont rencontrés les quatre, ils ont passé un week-end ensemble, et après voilà, c'était parti.
Ah, il y a une scène avec Jérémy et Guillaume qui est magnifique, d'ailleurs, vous verrez dans le film. Voilà. Merci Olivier.
Merci beaucoup. Merci.
On écoute la bande-annonce, Arrête avec tes mensonges, ça sort au cinéma, et juste après, Guylaine et Guillaume nous rejoignent, à tout de suite.
J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée.
Il n'y en a pas eu 150, hein, c'était mon père, je pense.
Vous le connaissez bien?
Comme ça.
Faut t'en dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes.
Allez, viens!
La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père?
Toi, tu vas te barrer, moi, je resterai.
Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi.
On marque une pause, on revient dans un instant avec Guylaine Landaise et Guillaume de Tonquédec. C'est la suite de notre spécial Arrête avec tes mensonges.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on continue à parler du film Arrête avec tes mensonges. Après Olivier Payon, eh bien, nous accueillons Guylaine Landaise qui est avec nous. Bonjour Guylaine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Guillaume de Tonquédec, un habitué de l'émission aussi. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a été bouleversés par ce film qu'on a pu voir il y a maintenant quelques mois au festival d'Angoulême. Ce film, Guillaume, je crois te tenait beaucoup à cœur. Je me souviens d'une projection dans une salle pleine qui vous a beaucoup ému à la fin avec une standing ovation qui était assez dingue. Et il est vrai que ce film est bouleversant de par déjà cette histoire. C'est ce qui t'a séduit en premier, déjà, Guillaume.
Il se trouve que j'avais pas lu le livre, mais je connaissais l'histoire. On me l'avait raconté peu de temps avant. Je me suis dit, mais quelle belle histoire, j'adorerais jouer ça. Je crois au destin. Et quelques semaines après, Olivier Payon m'appelle pour me proposer l'adaptation du livre. Je lui dis, il y a quand même un truc, vive la vie, quoi. Il y a quand même un truc bizarre. Et je n'avais qu'une crainte, c'était d'être déçu par l'adaptation. J'ai adoré l'adaptation. Et après, rencontre avec Olivier Payon. Cette rencontre a duré à peu près 2 heures. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi attendre? J'ai qu'une envie, c'est de bosser avec lui. Le mec a l'air formidable. Donc je lui dis, je lui tends la main en pleine phrase. Il était en train de me barrer. Je lui dis, c'est d'accord. Je lui serre la main et il éclate en sanglots. C'est vous dire le niveau d'émotion dans cette histoire qui ne nous a jamais quitté, qui continue à nous suivre. Et je lui dis, mais bah, qu'est-ce qui se passe? J'étais désolé, quoi. Et il me dit, non, mais c'est tellement important pour moi. Les choses commencent à se concrétiser par cette acceptation. On peut enfin y aller. Je m'attendais pas à ce que tu me dises oui tout de suite. Je pensais que t'allais réfléchir. J'ai dit, pourquoi réfléchir? Mais moi-même, je m'étais dit, c'est peut-être mieux de réfléchir. Je rentre chez moi. Je lui fais le coup de, ouais, je vous rappelle dans 2 jours. Bah non, j'ai dit, c'est la vie. Allons-y, quoi. Et croquons la vie. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé.
Guylaine?
Moi, je connaissais Olivier Payon. J'avais déjà vu ses films. Donc en fait, il m'a proposé assez rapidement le projet. Alors moi, c'était plus compliqué. Parce qu'en fait, le personnage de Gaël, à la base, n'existe pas dans le roman de Philippe Besson. Donc moi, je sais qu'à l'intérieur, j'avais quelques réticences. Non pas par rapport au projet ou à l'histoire magnifique que raconte ce film, mais parce que je suis une pièce rapportée. Et qu'une pièce rapportée, j'avais peur de ne pas pouvoir m'intégrer dans cette histoire qui était très forte. J'avais des inquiétudes, moi. Mais Olivier donc a fait appel à moi assez rapidement. Il y a eu plusieurs versions pour arriver à la dernière version qui est magnifique, mais qui l'ont toutes été. Mais il a, au fur et à mesure, précisé les choses. J'ai fini par dire oui, mais j'avais dit oui au départ parce que j'avais envie de travailler avec Olivier. Mais il m'a rassurée en me disant, tu ne seras pas là, en gros, vulgairement, pour servir la soupe. C'est juste que j'ai besoin de la présence féminine. Donc, j'amène, moi, la vitalité, on va dire, du présent. En gros, c'est ça, pardon. J'espère que je me suis pas trop...
Et tout d'un coup, un soir, il a, lui, passé une nuit très compliquée et agitée. Il descend chercher, s'il peut pas trouver dans cet hôtel quelque chose à manger. Il tombe sur cette femme et il va se passer quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est ça qui est magnifique, moi, c'est ce que j'aime dans les histoires et dans les personnages. J'adore ce personnage parce que
le premier mot, moi, qui me vient, c'est sensible.
Ah oui, sensible, oui, écorché vif, en tout cas sensible, oui. Et puis il me touche parce que figurez-vous que j'ai 55 ans. Quand on vit un premier amour, quand on le vit, on sait pas qu'on est rentré, on sait qu'on c'est un premier amour, mais on sait pas ce que c'est que l'intensité, ce niveau d'intensité, qu'est-ce que ça donnera plus tard, qu'est-ce que les rêves, tout ce que ça accompagne, la fébrilité, les émotions physiques aussi bouleversantes mentalement. Et c'est que justement les années passées et passant qu'on peut enfin jeter un regard derrière soi. Ce personnage, je le comprends, je comprends tellement. C'est pour ça que j'avais très envie de l'interpréter. C'est quelque chose d'universel. Il s'agit d'une histoire d'amour homosexuel. Mais assez vite, on s'en fiche, en fait. On s'en fout. Ça n'est plus le sujet. C'est évidemment un sujet très important, mais ça n'est plus le sujet. C'est une histoire d'amour. Cet homme, on est à l'époque dans les années 80, il n'y a pas les portables, il n'y a pas les réseaux. On peut vraiment disparaître. On peut ne pas retrouver quelqu'un s'il a envie de se cacher ou de ne pas répondre au téléphone en bakélite noir. Donc le secret, ouais, pouvait encore exister. Là, il y a plus de secret dans notre époque. Moi, c'est ce que je déplore et qui est peut-être magnifique aussi, mais il y a plus de secret.
Gaëlle, vue par Guylaine.
Ah, Gaëlle, apparemment un personnage extérieur à l'histoire qui se déroule. Et pourtant, en effet, elle est le témoin et va devenir le passeur de secrets, en effet, de vie entre les gens. Elle va permettre. Elle a un très beau regard. Elle a un beau regard sur les hommes qu'elle a en face d'elle, puisque c'est la seule femme du film. Et je trouve qu'elle a un regard pas seulement maternant, elle a un regard juste très respectueux. Elle comprend qu'il se passe des choses, elle ne les comprend pas. Au début, elle est là que pour respecter les autres, pour les servir, pour être là, pour que tout se passe bien pour cet événement, donc pour lequel on a invité Stéphane Bellecour, donc l'auteur. Elle est là que pour a priori servir tout le monde, pour que tout se passe bien. Comme on sait, quand il y a des grands événements, il y a toujours quelqu'un qui coordonne tout pour que tout se passe bien. Donc on voit un personnage un peu comme ça, papillonnant, plein d'énergie, d'allant. Et en fait, au fur et à mesure, on comprend bien, eh ben, que derrière cet être vibrionnant, il y a un être qui ressent et qui, tout en respectant la vie des autres et leurs secrets, parce qu'elle comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Et Olivier m'a permis aussi de montrer plusieurs facettes de ce personnage de Gaëlle. C'est-à-dire, en effet, l'extérieur, socialement, elle est très sociable, elle est joyeuse, elle est pleine d'énergie. Et à un moment donné, ben oui, derrière un joli masque de coordinatrice, il y a un être plus complexe et qui va enfin raconter ce qu'elle est à quelqu'un qui, en effet, au départ, l'a méprisé, Stéphane Bellecour. Je trouve ça hyper beau. On a une très belle scène où on a un échange vrai entre deux personnes. Donc j'aime beaucoup Gaëlle.
Je rajoute quelque chose parce qu'Olivier me l'avait dit et alors que nous on ne se connaissait pas, enfin on se connaissait comme ça mais on s'était pas rencontrés. Il m'a dit le personnage de Gaëlle aussi il est très important parce que c'est lui qui va amener la comédie.
C'est vrai.
Et j'ai besoin de comédie dans ce film, j'ai besoin de respiration, non pas pour faire pouet-pouet, hein, mais de respiration pour le public qui puisse digérer cette histoire qui est très très intense émotionnellement. Et c'est le personnage de Gaëlle qui va amener la comédie, le rythme époustouflant d'ailleurs. Olivier a beaucoup poussé Guylaine qui avait pas besoin d'être beaucoup poussée, mais il ne la lâchait pas sur le rythme et c'est elle du coup qui amène la comédie. Et moi je suis complètement, c'est comme un orchestre, moi je suis complètement en contrepoint, etc., très lent, dur à tirer, et elle remet deux fois plus elle fouette deux fois plus les chevaux de la diligence, et du coup ça crée un effet de comédie extraordinaire. Et là il me dit, et Guylaine, je vois pas quelle autre actrice pourrait faire ça, ce rôle c'est elle, je l'ai écrit et imaginé pour elle, je veux que ce soit elle depuis le début. Petit hommage à une comédienne que j'adore.
Arrête avec tes mensonges. C'est le film à ne pas rater, évidemment, au cinéma. Il y a plein de beaux projets qui vous attendent. Guylaine, on va vous retrouver bientôt dans la nouvelle génération des Bracelets Rouges qui va faire son retour en 2023 sur TF1. J'oserais dire enfin, presque.
Oui, je suis très heureuse. Je joue le rôle d'une oncologue que j'adore aussi. Il y a la sortie du film de Laurent Tirage, Juste Ciel, avec Valérie Bonneton.
Connais pas du tout Valérie Bonneton. Non, Guillaume, il la connaît pas du tout. Très mal.
Elle m'a dit qu'elle me connaissait. Moi, je vois pas du tout qui c'est.
Guillaume, des projets pour 2023?
Eh ben moi je suis d'ailleurs en tournée avec la pièce Times Square un peu partout en France depuis le 6 janvier jusqu'au 13 mai, voilà, un peu partout sur les routes de France, de Suisse et de Belgique, pour mon plus grand plaisir d'aller voir les gens chez eux. C'est un beau cadeau pour les comédiens.
C'est clair, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les deux et on vous dit à très très bientôt.
Je suis le 26 avril à Mérignac, voilà, c'est la date la plus proche d'Angoulême, les lieux du tournage.
Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire là?
Je suis très mal à l'aise, alors on se calme.
Stéphane, tu as ta fille qui t'attend et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là.
Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Explique-moi.
Tout va bien, je te dirai plus tard.
Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Et moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père.
Et on va continuer de parler de ce magnifique film qui sort mercredi dans les salles. Arrête avec tes mensonges, après Guylaine, Guillaume et Olivier qui est avec nous à l'instant. Eh bien, on va parler de celui qui a écrit le livre de cette histoire. Une histoire très personnelle qui nous livre ici Philippe Besson, l'auteur de ce best-seller. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment déjà on arrive à livrer une histoire aussi personnelle que celle-ci avec ce livre, quand on a fait des romans, quand on a écrit voilà plein d'histoires? À quel moment on décide comme ça de se livrer à son public?
Alors j'y étais pas préparé pour tout vous dire, parce que moi j'adore écrire des romans, je suis avant tout un homme qui fait fiction, qui invente des histoires, qui invente des personnages. Je suis d'ailleurs venu à l'écriture des livres pour ça, pour vivre d'autres vies que ma propre vie, et donc j'avais pas prévu de raconter aussi frontalement un souvenir intime, mais il se trouve que voilà, les hasards de la vie et la rencontre avec Lucas Andrieux, le fils de Thomas, ont changé cette donne-là. Tout d'un coup j'apprends une nouvelle qui me terrasse et je me dis il faut raconter la vie de cet homme-là. Et je suis allé au bout de ça et il fallait le faire sans phare, sans fioriture et avec la plus grande des sincérités, la plus grande des honnêtetés intellectuelles et avec la volonté de rendre hommage.
Alors, à quel moment Olivier Payon vient? Est-ce que vous avez hésité? Comment ça s'est passé?
D'abord, il est venu tout de suite. Il est venu. Le livre était à peine sorti. Il est venu et il m'a raconté pourquoi il avait envie de faire un film à partir de cette histoire-là. Alors, moi, j'accueille toujours avec beaucoup de bienveillance les réalisateurs qui ont envie de faire des films à partir de mes livres, parce que je trouve qu'un livre c'est un objet vivant et que c'est bien que ça devienne autre chose. Donc, quand ça devient une pièce de théâtre, ça devient un film, ou même c'est traduit à l'étranger, c'est formidable. Donc, moi, j'ai aucun problème avec les multiples vies d'un livre, et j'ai aucun problème non plus avec la dépossession. On écrit un livre, mais quand on le publie, on le perd. Donc, il y a pas de souci.
Oui, mais quand c'est une histoire personnelle, est-ce qu'on a un peu plus d'appréhension?
Justement, effectivement, là, on se pose des questions. Je m'en suis posé un peu plus que les autres fois, mais à partir du moment où j'avais publié le livre, il fallait plus se cacher derrière son petit doigt. Voilà, bon, les histoires existaient, elles étaient devenues publiques. Quelqu'un avait envie de la raconter, de la montrer. J'ai dit, allons-y. Et la façon dont il m'a raconté ce qu'il voulait faire, et notamment le fait qu'il avait envie d'axer un peu plus que dans le livre l'histoire sur les personnages adultes et sur le lien entre l'écrivain et le fils du premier amour, ça m'a intéressé parce que c'est vrai que le livre est plus axé sur la jeunesse et sur les adolescents. Et donc, je me suis dit, il va changer de perspective, il va changer de regard, et j'aimais ce nouveau regard qu'il portait sur cette histoire.
Le choix de Guillaume de Tonquédec pour vous incarner, est-ce que ça pouvait être mieux, franchement?
Non, je crois pas. Je crois que c'est un choix évident. Tout d'un coup, quand il m'a dit, je pense à Guillaume, c'est vraiment son idée, c'est pas la mienne. Hein. Je pense à Guillaume, j'ai dit, mais oui, bien sûr, évidemment.
Comment vous avez réagi à la première projection, quand vous avez vu le film la première fois? J'imagine l'émotion.
Alors pour tout vous dire, à la première projection, j'ai fait le malin parce que j'ai vu le film avec les comédiens et le réalisateur et j'ai voulu me protéger parce que je me suis dit que ça allait être très difficile pour moi et donc j'ai essayé de prendre le maximum de distance et en fait je l'ai fait presque comme un critique de cinéma. J'ai fait de votre boulot et je me suis dit oui, je vais juger les acteurs, la mise en scène, et donc je suis sorti du film en disant vachement bien cette scène, c'est des bons choix, c'est très bien interprété, etc. Parce que j'avais besoin de mettre une barrière entre voilà. Et puis après j'ai vu le film seul chez moi sur ma télé. Et là, j'ai été absolument dévasté, bouleversé, enchanté. Et là, toutes les émotions sont arrivées, se sont entassées d'un coup. J'ai été très ému, très reconnaissant, parce que tout d'un coup, j'étais ramené à ma propre jeunesse, à cette expérience très intime. Et puis, surtout, j'avais l'impression que Thomas était avec moi. Donc, c'était à la fois douloureux et merveilleux de retrouver ce disparu.
Alors, qu'Olivier fasse un film, il aurait pu être transposé dans n'importe quelle région de France, mais qu'en plus, il décide de le tourner, de l'ancrer sur vos terres natales, la Charente. Ça a dû être un plaisir immense, ça.
Oui, c'est un plaisir magnifique et j'ai une gratitude folle pour ça, parce que effectivement, il aurait pu décider de le faire ailleurs. Hein, c'est une histoire universelle, elle pouvait se situer ailleurs que là. Mais voilà, c'est la terre de mes origines, j'y suis resté fidèle, ma mère vit toujours ici, j'y reviens régulièrement, j'habite maintenant pas très loin d'ailleurs. J'étais très heureux que ça se passe là et je trouve que justement le film d'Olivier montre la Charente telle qu'on la voit peu. Et il la magnifie sans la magnifier, c'est-à-dire qu'à la fois on va la voir très belle, parce qu'elle est très belle, mais comme on la voit rarement au cinéma.
Quel est le prochain livre que vous auriez envie, en tout cas si vous aviez envie de passer un appel là, qui n'a pas été adapté encore, que vous souhaiteriez qu'il soit adapté?
Bah peut-être Dîner à Montréal, qui est aussi un récit autobiographique et dans lequel Guillaume serait parfait.
Alors en plus, vous venez de sortir votre nouveau livre, ceci est un fait divers, que vous venez de sortir dans toutes les bonnes librairies et tous les bons espaces culturels, Leclerc en tout cas. Et donc Philippe, roman, histoire personnelle, racontez-nous.
Alors j'ai choisi là de revenir au roman pour une fois, parce que je me suis dit il y a une histoire qui m'intéresse de raconter, même si cette histoire part d'une rencontre personnelle que je fais avec un jeune homme. Voilà, j'entame une conversation avec lui et puis finalement ce dialogue se poursuit, on se rencontre à plusieurs reprises et puis un jour il finit par me dire cette phrase qui me sidère et qui me coupe le souffle. Il me dit: mon père a tué ma mère. Et je me dis non, les enfants qui ont vécu ce drame-là, cette tragédie, n'ont pas à garder le silence, ils ont le droit aussi à la parole. C'est, vous savez, c'est ce que je disais pour Thomas Andrieux, il faut réparer l'injustice, il faut réparer les absences.
Ceci n'est pas un fait divers, ça vient juste de sortir dans toutes les bonnes librairies. Je vous conseille, c'est le nouveau livre de Philippe Besson et vous allez pouvoir découvrir en attendant l'adaptation cinéma mercredi, L'arrêt avec tes mensonges. Merci beaucoup Philippe d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, avec toutes ces choses hyper intéressantes, et on se dit à bientôt du coup.
Absolument, à très vite.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé est consacré à Crime Parfait, qui sera diffusé demain soir sur France 3. Vous allez découvrir ce qui s'apparente au quasiment dernier épisode de la série, puisque Crime Parfait va tirer sa révérence prochainement au bout de 6 ans de succès. Plusieurs productions se sont succédées pour nous offrir ces enquêtes, dont celle évidemment d'Éléphant et compagnie avec Isabelle Gélinas. C'est Arthur Mazé qui est avec nous justement en ligne. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Merci d'être là. Tu y incarnes le rôle de Thibaut depuis maintenant quelques années. on avait eu l'occasion de se rencontrer avec avec Isabelle maintenant il y a quelques années justement au festival de Luchon. C'est vrai que c'est une aventure qui dure maintenant depuis quelques années pour ce rôle de Thibaut. Et il faut dire que Crime Parfait, c'est quelque chose qui a un succès assez incroyable. Et puis vraiment des enquêtes à manière un peu de Columbo. On connaît tout de suite évidemment le coupable et on va démêler effectivement l'histoire pour comprendre comment ce crime parfait peut passer à travers les mailles du filet.
Oui, en effet. Et puis en plus, ça a été aussi un succès qui a été surprenant pour nous parce que c'est vrai qu'à la base, avec Éléphant et Isabelle, vous avez annoncé que c'était juste deux épisodes, qu'on allait ouvrir la collection Crime Parfait, mais que ça allait s'arrêter sur deux épisodes et qu'après, ça serait à chaque fois des nouveaux duos d'enquêteurs pour chaque soirée. Et quand ils ont diffusé nos premiers épisodes, ça a très très bien marché. Je crois qu'on avait fait 4,8 millions de téléspectateurs. Et du coup, ça a donné l'envie à France 3 de retrouver ce duo d'enquêteurs. Donc c'est vrai que pour nous, c'était une très belle surprise. Et du coup, là, on a les épisodes 9 et 10, si on compte que les nôtres, qui seront diffusés demain. Donc c'est une belle aventure, quoi. C'est vrai que ça nous a surpris et ça nous a permis de se retrouver avec Isabelle et avec toute l'équipe d'Éléphant et les équipes de Crime Parfait pendant plusieurs années.
Eh oui, ça passe vite. Et puis des guests prestigieux à chaque fois, Charlie Bruno, Anne Charrier, pour ne citer qu'elle, 4 épisodes, c'est à peu près 2 mois de tournage sur l'année. À chaque fois que vous êtes retrouvés, vous avez réendossé vos rôles tous les deux. C'est comme si vous étiez jamais quittés à chaque fois. Vous avez eu cette...
Ah ouais, totalement.
Ah, c'est
totalement,
ouais, c'est j'imagine un peu.
C'était toujours un rendez-vous qu'on attendait un petit peu. Et à chaque fois, on était ravis de se retrouver avec Isabelle, avec les équipes. Et franchement, c'est toujours un petit rendez-vous très très chouette. Non, c'est vraiment agréable. En plus, Isabelle, humainement et professionnellement parlant, on s'est entendu très très rapidement dès la première lecture de premier épisode de Crime Parfait. Moi, je la considère un peu comme comme une tante maintenant de cinéma, quoi. Donc
la marraine.
C'est la famille, quoi. Exactement. Ouais, là, c'est vraiment, on s'entend très très bien.
Bon, bah voilà, t'as deux marraines en gros maintenant. T'as Isabelle Géinas et Noémie Schmidt de l'autre côté. Je sais que vous êtes très amis aussi. On va parler de 3615 Monique aussi d'ici quelques instants. On va parler juste des deux épisodes hein, justement de demain pour commencer. C'est dans le domaine de l'équitation et notamment des chevaux que ça va se passer hein, pour la première enquête notamment qui sera diffusée à 21h10.
Exactement, oui, ce sera l'épisode avec Charlie Bruno qui se passe dans le domaine équestre. Et ouais, ça va être un bel épisode avec un peu d'action en plus.
Et il y a toujours autant d'humour aussi. Dans Crime Parfait, il y a aussi du lourd quand même.
Ah oui. Après, oui, c'est vrai que le en tout cas le duo avec Isabelle, sur ce duo-là, nous, on a amené beaucoup d'humour. Enfin, Didier le Pêcheur et Delphine le Pêcheur qui écrivent les épisodes ont tout de suite amené de l'humour dans ce duo-là, qui est déjà un duo hyper contrasté avec une commissaire un peu fofolle et un assistant, un lieutenant qui lui est plutôt un peu carré. Et du coup, ce contraste amène tout de suite de l'humour et dans les situations...
voire psychorigide des fois.
c'est vrai. Je peux l'avouer que... Ouais. Des fois, Thibaut, il est un peu psychologique.
Alors, c'est vrai que quand on te voit dans Crime Parfait, qu'on te voit dans 3615 Monique, c'est vraiment deux rôles complètement différents, là, Arthur, hein, que tu nous offres.
Bah, c'est ça qui est intéressant avec mon métier, ouais, c'est que être acteur, on joue pas toujours le même rôle, sinon c'est pas très intéressant.
C'est clair.
Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir justement traverser des rôles très différents. C'est ça qu'on recherche un petit peu, je pense, en tant qu'acteur et qu'actrice, c'est de se chercher à jouer ce dont on est déjà très éloigné de nous-mêmes et puis d'avoir des rôles très différents.
Alors, en décembre, il y a eu la saison 2, 3615 Monique. Vous pouvez encore évidemment vous l'offrir sur OCS à la demande puisque l'intégralité des deux premières saisons en tout cas sont disponibles. Est-ce qu'on peut espérer, puisque généralement OCS fait des séries par trilogie, est-ce qu'on peut espérer une saison 3? Est-ce que tu as des nouvelles là-dessus?
Pour l'instant, moi j'ai eu un petit peu, je suis allé un peu à la pêche aux nouvelles, mais pour l'instant on n'a pas eu de retour encore de la part d'OCS et c'est vrai que je pense qu'ils doivent attendre un peu de voir ce que la diffusion donne pour avant se lancer sur une écriture déjà d'une saison 3. Mais en tout cas, je sais que les auteurs de la série, eux, l'ont pensé de cette manière-là. Donc, c'est vrai que à partir du moment où on aura le feu vert de la part d'OCS pour lancer l'écriture, la saison 3 est déjà pensée.
On te retrouve en tout cas demain dans Crime Parfait. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Et à très vite.
Oui, à très vite.
C'est normal, ça?
Absolument pas.
Les enquêtes ont un je ne sais quoi en plus.
Hop, 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 hop! Vous allez où comme ça?
Toc, toc, toc.
Un petit plus qui frôle la perfection.
Qu'est-ce qu'elle cherche encore, celle-là?
Duo d'enquêteurs parfait.
Presque parfait, c'est bon.
Pour Crime Parfait. Oh, inédit, mardi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
coup de cœur télé consacré à l'abîme. Ça sera le final, le grand final, mercredi sur France 2. Après Gillalma, il y a 15 jours, c'est celle qui joue sa fille. Évidemment qu'on accueille dans Chute, on écoute la télé, une amie de l'émission, Marie Malia, qui est avec nous. Bonjour Marie.
Bonjour Alain.
Tu joues le rôle de Lucie dans cette fiction.
Mais c'est ça.
Dis donc, que d'aventure après les combattantes. Lola Corcel dans Plus belle la vie, qui aura marqué évidemment ces deux dernières années aussi. Du cinéma avec les Cyclades en janvier, tu n'arrêtes pas?
Bah ouais, écoute, là j'ai une actu assez sympa, ça fait plaisir, et puis on verra pour la suite. Hein.
Qu'est-ce qui t'a plu dans l'abîme?
Déjà, premier truc, c'est que quand j'ai lu le scénario, j'y ai vraiment, vraiment, vraiment cru. C'est-à-dire, d'habitude, c'est vrai que moi, quand je regarde du policier, je suis toujours en train de faire les plans sur la comète, de me dire, moi je pense qu'il va se passer ça. Et là, en fait, j'étais vraiment sur le cul, quoi, parce que je n'ai rien vu venir. J'ai trouvé ça déjà, à la base, juste hyper passionnant, hyper prenant. Je m'y suis... Parce que à la base, moi, j'étais pas prise pour la série, hein, donc je l'ai vraiment juste lu comme quelqu'un qui lirait une histoire, et je me suis dit, du côté téléspectateur, déjà, ça va être dingue, parce que moi, j'étais complètement prise dedans, je comprenais rien à ce qui se passait, je m'imaginais tous les trucs possibles imaginables, et c'était jamais ça, et ça m'a rendu dingue, je me suis dit que c'était génial.
Alors, tu joues la fille de Laurent Elsa, pour situer un peu les quatre premiers épisodes, pour ceux qui n'auraient pas encore regardé, c'est une famille où tout va bien, l'amour règne, même si entre la maman et sa fille, les rapports sont un peu conflictuels. Voilà, exactement, tout va relativement bien, jusqu'au jour où Elsa disparaît, du jour au lendemain, que s'est-il passé? En recherchant Elsa, Laurent et sa fille s'aperçoivent qu'elle s'appelle pas Elsa, qu'elle s'appelle Sophie. Alors, moi, qui ai eu la chance de voir les épisodes avant, un peu avant tout le monde. Alors, le cinquième épisode, à la fin, n'allez pas vous coucher, d'accord?
Parce
que vous avez carrément l'impression que c'est fini, que voilà, fin de l'histoire, vous avez les réponses à peu près, mais en tout cas, vous avez l'impression que c'est terminé. Eh bien non, le sixième, c'est un feu d'artifice, hein. On est d'accord?
Ah, exactement. Ah bah complètement, pour le coup, c'est... Non mais, et pour le coup, moi j'ai regardé les épisodes, pareil, en avance avec ma sœur, et en fait, à la fin du cinquième épisode, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, ah bah c'est tout, ça finit comme ça, et j'étais en mode, non, il y a une suite, il y a un truc, et là, tout le monde a la bouche ouverte, non, franchement, c'est incroyable.
Bon, c'est chouette. Comment ça s'est passé, le tournage avec Gilles et avec Sarah, justement, Sarah Mortensen, avec Samuel Labarthe? T'as partagé aussi quelques jolies scènes avec ceux qui jouent tes grands-parents?
Alors, c'était magnifique. Un tournage très sain à la base, que je parle des comédiens comme des équipes, du réalisateur, tout le monde. Il y avait une ambiance tellement paisible qui régnait sur ce tournage. C'était un bonheur incroyable. Gilles, il a été adorable avec moi. C'est un peu un repère. Enfin, j'ai adoré tourner avec Sarah, mais c'est vrai que mine de rien, on s'est très peu vu. Mais très très peu, c'est-à-dire on parle souvent d'elle, mais en soi, on a dû tourner quelques jours ensemble.
Ouais, c'est vrai, t'as beaucoup plus de scènes avec Gilles. Ça, c'est sûr.
Ah bah complètement. Et donc j'ai passé vraiment tout du long, tous les jours avec Gilles, et c'était un bon soutien, une épaule, et je trouve qu'on a vraiment bien travaillé tous les deux. Évidemment, énormément ri, et ça c'est très important, surtout pour le coup, on jouait des choses assez dures, assez sombres, et donc ça faisait du bien de rigoler entre les séquences. Et puis pareil avec Samuel, pour le coup, on rigolait tout le temps, c'était trop marrant. Et Anne aussi, qui est adorable, Anne Loiret. Et Christopher Bayemi, surtout. Et Gilles a rendu tout ça pour moi très très facile, franchement.
Marie aussi, t'as été un peu au cœur de l'actualité la semaine dernière, après une interview chez ton frère d'Alexandre Letraine. Alors on va remettre un peu l'église au centre du village, ensemble, justement.
Oui, s'il vous plaît.
Parce que là, il paraît que t'es très énervé, que t'es très en colère.
Et
en fait, c'est monté en épingle, mais très très vite, cette histoire-là, après le démontage des décors de la série Plus belle la vie.
Moi, je suis pas du tout en colère. Qu'est-ce qui se passe là? Non, on est triste. Enfin, j'arrête vite de dire on. Je suis étonnée. Je suis triste parce que c'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Moi, je parle même pas forcément pour s'il y aurait une suite à Plus belle la vie, parce que je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas du tout au cœur du projet, donc je n'en sais rien. Mais hormis ça, les studios, ça fait juste énormément de peine, parce que c'est un monument de la télévision française, un monument de Marseille.
C'est vrai.
Et on nous avait dit qu'on les laisserait. Et puis surtout, c'est les gens auraient aimé les voir. Au début, on faisait des visites, des choses comme ça, et il y aurait quelque chose qui aurait vraiment pu se mettre en place autour de ça, et ça n'a pas été fait. Et on a vraiment été prévenus à la dernière minute, en mode, bon, bah en fait, on les détruit, quoi. Donc c'était un petit peu un choc, quoi, beaucoup de peine, mais
oui,
voilà,
c'est plus l'engagement qui a pas été respecté de garder ces décors là parce qu'il devait y avoir effectivement Place du Mistral et le commissariat de police qui devait être gardé, et c'est plus l'engagement qui a pas été respecté qui vous a un peu tous peiné,
oui.
Quoi,
bah oui, c'est ça, en fait on est triste après révolté, enfin non, ça fait un moment que Plus belle c'est fini, que c'est pas forcément derrière nous, mais voilà, mais oui, enfin juste triste, quoi, de se dire c'est ce décor qui a 18 ans, qui est fait en béton, tout, ils ont tout cassé, quoi.
Bon, Marie, on se retrouve très vite pour d'autres projets?
Bah, complètement, bien sûr, alors.
Tu sais que t'es la bienvenue quand tu veux, on t'embrasse très très fort.
Ah, c'est très gentil.
Et puis, on te dit à très très vite, et on te retrouve dans l'abîme mercredi pour ce grand final époustouflant qui vous attend sur France 2.
Ah, ne surtout pas manquer.
Exactement. À très vite. Merci, Marie.
Merci à toi.
Faut que tu te rendes, Sophie. Tout raconter à Stéphanie.
Elle est devenue flic.
Sophie et elle étaient comme deux sœurs.
Allez, viens, Steph, on se barre.
Faut de l'argent pour faire ça, donc.
Mon père, il en a.
Sophie, t'as pas envie d'en finir avec cette affaire. T'as piqué du fric dans le coffre de ton père, comme tu le faisais parfois, et t'as surprise. Il faut que tu me dises où t'as caché le corps de Valentin.
Arrête, putain!
Il est tombé.
Dans mes rêves, il tombe.
La découverte musicale. Chut, on écoute la télé.
Allez, on va parler musique un petit peu avec une de comédiennes qu'on aime tant dans Chut, on écoute la télé, qui est avec nous, Marie Henry. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors que tu as incarné le docteur Nebout dans Plus belle la vie pendant des années, eh bien là, Marie, on te retrouve à la musique. C'était un projet qui te tenait à cœur depuis longtemps, il faut le dire, et vrai que Plus belle la vie prenant beaucoup de temps, eh bien fait retarder un peu les choses, mais ça y est, tu peux partir. Et dans les bacs, depuis vendredi, il est tout chaud, il sort du four, et je sais que c'est un projet qui te tient énormément à cœur.
Ouais, énormément à cœur. C'est une chanson que j'ai écrite en début 2021. J'étais en plein de tourments sentimentaux à ce sujet-là, donc. Et c'est la première chanson que j'arrive avec jusqu'au bout. Donc c'est super important pour moi, parce que l'envie était tellement forte d'exorciser, de faire quelque chose de cette détresse que j'ai pu aller au bout, et en fait ça a été le point de départ de plusieurs chansons qui ont suivi après, depuis, que je n'ai pas encore sorti, que je garde encore au chaud, mais voilà, Tu peux partir, c'est vraiment le point de départ de cette nouvelle voix.
On peut imaginer que c'est juste un petit échantillon pour commencer, mais qu'un album est peut-être en préparation pour les mois à venir.
Oui, alors en fait je fais ça vraiment à la cool, parce que comme il y a beaucoup de pression avec le jeu, tout ça, enfin, je suis quand même comédienne avant tout. Je vais très tranquille sur les sorties. Je veux pas annoncer quoi que ce soit, parce que je tiens à ce que la musique reste un plaisir. Déjà, j'ai retrouvé des amis, j'ai monté un quatuor, harpe, piano, ukulélé. Et l'idée, c'est qu'on prenne le temps de construire des choses, qu'elle m'accompagne sur des morceaux que j'ai écrits, tout ça. Mais voilà, les choses vont se faire aussi petit à petit, et c'est sûr que évidemment que j'aimerais dire que voilà, je vais sortir l'album telle date, mais pour l'instant c'est un peu prématuré, donc je sors ce single parce que j'avais besoin de le sortir et d'aller au bout de cette chose, et ensuite les choses vont suivre naturellement et en leur temps.
Exactement,
voilà.
À ton rythme, et c'est bien d'aller à son rythme et de prendre son temps, justement, et ça les fans savent reconnaître effectivement, parce que c'est toujours les choses faites avec le cœur, et ça vraiment, voilà, ça se ressent dans tout ce que tu fais d'ailleurs, Marie, et ça c'est un beau projet, merci. Mine de rien, qui t'accompagne pour cette après Plus belle la vie qu'on a tous vécu de façon assez particulière, mais toi encore plus particulière, parce que t'as dû gérer une grossesse en même temps, et t'es revenu pile poil pour la fin, pour le final de la série, donc c'est vrai que t'as vécu encore une fin de la série qui était encore plus particulière, hein, toi, que les autres.
Oui, surtout que dans la dernière intrigue, je devais creuser ma tombe, et alors que j'étais en plein postpartum, donc c'était très très particulier en effet. Mais j'étais ravie de pouvoir venir faire mes adieux à la série, c'était important. Je remercie les auteurs et la production de m'avoir permis de faire ça, parce que sinon je me serais sentie vraiment extérieur à la chose, et j'aurais pas pu vraiment dire au revoir, alors que c'était un vrai deuil à faire.
Ah, on n'avait pas se quitter sans toi quand même.
Heureusement non, heureusement ça s'est fait avec moi.
T'as été mis au courant évidemment de ce projet de la Scope de reprendre la série si Plus belle la vie revient. En tout cas, est-ce que toi tu serais partante?
Oui, je serais partante. Après, forcément, faut voir les conditions et ce qu'on arrive à faire de ça. Mais dans l'idée, oui. De toute façon, j'ai tellement aimé travailler avec toutes ces personnes que pourquoi pas. Oui.
Alors juste avant d'écouter justement ce titre, Tu peux partir. Mmh. Raconte-nous avec qui t'as travaillé.
Avec personne, avec moi-même.
Donc t'as tout fait toi-même, t'as composé la musique toute, t'as tout fait toute seule.
Oui.
C'est génial.
En fait, je joue du piano depuis que je suis petite, donc voilà, je chante aussi depuis très longtemps, donc pour moi c'est assez assez naturel de trouver des mélodies et puis de m'accompagner au piano en fait. Voilà, en tout cas j'espère que ça aura des échos, mais bon, là j'ai quand même fait écouter à quelques personnes et ça marche, donc j'en suis très heureuse. Et puis après c'est le début de plein de chansons à venir.
Et écoute, nous on va essayer de le faire écouter à des dizaines de milliers de personnes maintenant. Justement, ça s'appelle Tu peux partir. C'est le premier titre de Marie Henry. C'est sorti vendredi. C'est tout chaud, ça sort du four, comme on dit. Et Marie, on va découvrir maintenant la Marie Henry chanteuse après la Marie Henry comédienne qu'on espère très vite retrouver. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous.
Merci à toi Alain.
Et merci de nous avoir fait ce cadeau de nous l'envoyer et tout de suite de pouvoir vous le diffuser. Tu peux partir, Marie Henry, dans Chute, on écoute la télé.
Oh toi mon doux rêvé, mon enfant idéal, même si tu n'es pas né, ensemble on s'accompagne. Mon tout petit oiseau, bien caché tout là-haut, à l'abri de ce monde, à l'abri du chaos. Autant de nos baisers, son corps contre mon corps, j'ai fait tout pour oublier mon rêve dans ses yeux morts. Ici depuis la terre, mon cœur pleure et ma chair crie son manque de toi, toi qui n'existes pas.
Et dans un instant, la dernière partie de Chute, on écoute la télé avec Sébastien Tullard, le réalisateur du film À la belle étoile. Il sera accompagné de Riyad Belaïch, plus connu sous le nom de Just Riyad. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré à La Belle Étoile. C'est un film magnifique qu'on a pu découvrir en avant-première à l'Alpe d'Huez. On a Sébastien Tullard, le réalisateur, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sébastien.
Eh ben bonjour.
Et il est pas venu tout seul, Sébastien. Oui, il est là. La découverte, la pépite de ce film, Riyad Belaïch, qui est avec nous, alias Just Riyad. Pour les connaisseurs sur le net, plus de 4 millions d'abonnés. Bonjour Riyad.
Bonjour, bonjour, merci.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Moi, j'ai découvert le parcours hors du commun de Yazid, un jeune pâtissier champion du monde qui est parti d'absolument rien. Et c'est cette histoire que raconte le film. Sébastien, à quel moment vous avez eu envie d'adapter en tout cas le livre de Yazid?
L'idée est venue de la productrice Laurence Lascari, qui a produit L'Ascension il y a quelques années, et elle a tout de suite vu, en fait elle a lu un article sur Click avec Mouloud Achour sur cette histoire, parce que Yazid était venu pour la promotion de son livre, et elle s'est dit il faut absolument que je rencontre Yazid parce que c'est l'ADN de ce qu'elle veut faire comme film. Un scénariste est arrivé sur le projet, il a écrit et Laurence m'a demandé de faire la réalisation. Donc j'ai réécrit aussi pour m'approprier aussi ça. J'ai rencontré Yazid qui nous a beaucoup aidé aussi sur le parcours de sa vie, mais aussi après pendant la préparation sur les pâtisseries, sur tout cet univers. Voilà.
Et là, Riyad est arrivé. Une vraie découverte, je dirais, c'est vraiment la révélation de ce film. T'es sur tous les plans, Riyad, quasiment. Enfin, je crois que t'as tout donné là. Hein.
Bah ouais, j'avoue, là, j'étais sur tous les plans ou pas? Non, j'avais quand même des jours où je tournais pas. Il y avait quand même des jours où je tournais.
Il devait pas y en avoir beaucoup quand même.
Ouais, non, il y en avait, je crois, 2-3.
Parce qu'il y a eu quand même des moments aussi, on a tourné avec le petit Yazid.
Ok, formidable aussi, ça faut le souligner. Marouane. Parce que franchement, il est incroyable, Marouane.
Super, il est super, il nous fait passer vraiment des émotions incroyables à travers ses yeux. Il a un regard, ouais, il est très, très, très touchant, très tendre.
Qu'est-ce qui t'a plu en premier, toi, Riyad?
Bah moi j'attendais d'avoir un projet comme ça, c'était un film que je voulais faire. L'histoire m'a touché dès le départ en fait. Quand Laurence et là aussi de m'ont pitché en fait le film, j'étais là genre en fait il faut que je fasse ce film.
C'était une évidence.
Au moment où il a fait les essais, c'était une évidence parce que
je suis arrivé en dernière minute hein. Genre j'étais le dernier des derniers sur la liste du casting hein.
Il était temps alors qu'il arrive.
On cherchait la pépite. On a vu, pour vous avouer, on a vu une cinquantaine de comédiens. Et Riyad, quand il est venu en essai, il a fait une proposition qui m'a fait frissonner. Et je me suis dit, ok, en fait, je crois qu'on n'est pas loin là. On se connaissait déjà de 30 jours max, parce que moi j'étais assistant réalisateur sur 30 jours max. Et donc, voilà, notre complicité est venue naturellement en fait.
Et d'ailleurs, au moment où on parle, on fait une bise à Tarek Boudali qui est en train de tourner la fin de 3 jours max au Mexique en ce moment. Riyad, est-ce que tu as pu rencontrer Yazid avant? Parce qu'il y a deux écoles généralement quand on incarne quelqu'un qui existe.
Bah, Yazid, il était avec nous dès le départ. À partir du moment, en fait, le film il s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu d'abord la préparation où il était avec nous dans les labos, etc. Il nous montrait les gestes à faire. Il nous montrait tout le monde de la pâtisserie. On était avec lui et il était aussi là pendant le tournage. Durant les 2 mois de tournage, il était là aussi sur toutes les scènes de pâtisserie pour vraiment nous aiguiller, nous aider sur les gestes, les mouvements, c'est des trucs qui allaient pas. Et ben il était là pour nous dire ouais, attention, ça faut pas faire ça. Yazid est censé être un génie de la pâtisserie. Donc moi dans mes moments, faut que ce soit précis, sinon ça fait mytho quoi.
C'est incroyable. On va écouter la bande annonce, on revient juste après avec vous. On va évoquer ce casting de dingue, Pascal Légitimus, Esteban et il y en a tellement d'autres qu'on va aller voir dans cette pépite, ça s'appelle À la belle étoile, ça sort mercredi au cinéma. On revient juste après.
On va regarder le petit soit à l'heure et présentable.
Oui, chef. Et oh, c'est l'entrée de service pour vous.
Ah, OK.
Dans un foyer, il n'y a pas 1000 façons de s'en sortir.
C'est plus possible de le garder, ça devient trop grave.
Yazid, il a un talent, il est en train de le développer, faut pas tout casser.
De retour, la bande-annonce vous a en tout cas donné envie, j'espère, d'aller voir le film mercredi dans les salles. Riyad Belaïch et Sébastien Tullard sont avec nous pour nous parler de ce très beau film. On va évoquer évidemment ce casting, la rencontre avec Pascal Légitimus. Riyad, ça a dû être génial ça.
Bah, c'est spécial, c'est un peu le multiverse quoi, c'est un truc qui est jamais censé arriver. C'est-à-dire que moi dans ma tête, rencontrer Pascal Légitimus, faire tourner avec Pascal Légitimus, c'était même pas dans ma liste de trucs à faire dans ma vie.
C'était pas dans ta playlist.
C'était pas dans ma playlist, voilà, exactement. C'était inconcevable pour moi d'arriver à ce stade-là.
Ah, c'est ça qui est génial. Esteban aussi. Alors, lui, il y va, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort dans son rôle. Il envoie du lourd, hein.
Ah ouais, Esteban, c'était trop dur, en fait, de rester face à lui parce que, en fait, il est trop fort. Il joue trop bien parce que dans le film, en fait, tu le détestes. Ouais. Et des fois, ça m'est arrivé de le détester quand on tournait parce que je dis, attends, il est vraiment à fond là.
C'est aussi une histoire d'amitié entre le personnage de Pardicoche et c'est aussi un parcours d'amitié ce film.
Oui, en fait, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que dans cette période du film où on arrive sur la deuxième partie, c'est un moment où tout s'éclaire pour lui, pour Yazid. Et Manu, c'est son allié, c'est celui qui est toujours là à ses côtés, qui le soutient dans la difficulté de cette montée vers son ascension. Et en fait, c'est un personnage que j'adore parce que je me suis inspiré aussi de ma propre vie. J'ai des amis qui me font mourir de rire et qui en fait me soutiennent et voilà. Et en fait, en discutant aussi avec Yazid, qui m'a dit comment était Manu dans la vraie vie, et ben en fait j'ai su voir un peu le profil de Manu. Et Dicoche m'a incroyablement stupéfait quand il a interprété Manu, parce qu'il a ce truc de bienveillance et d'empathie qui arrive tout de suite dès les scènes où il est là. On a envie d'être avec lui.
Et les scènes de championnat du monde étaient incroyables quand on y croit à fond et il y a énormément de figurants, la salle est magnifique, enfin vraiment ces scènes de championnat du monde qui ont été montées, ça devait être impressionnant, ne serait-ce que pour toi Riyad.
Bah à tourner et puis on tournait un peu, c'était lumière un peu tamisée quoi.
La glace n'a plus de secret pour toi.
La glace, si, la glace elle a encore beaucoup de secrets pour moi parce que bon, on avait préparé en fait plusieurs blocs. Parce qu'il fallait faire vraiment étape par étape parce que ça aurait pris trop de temps de tailler en fait le truc. On a tourné 3 jours pour faire les scènes de championnat du monde. Et vraiment c'était, ouais, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de figurants. C'est le jour où on avait plus de figurants.
Ouais, bien sûr.
Et c'est là où justement le rôle que tu dois avoir, c'est être vraiment sérieux, essayer de faire gagner le plus de temps à tout le monde.
Quelles sont les scènes et les moments qui resteront marqués pour toi à vie sur le tournage de ce film? Parce que t'as eu des scènes, alors il y a des scènes de désarroi, il y a des scènes de colère, tu passes par tous les états finalement dans ce film. Tous les états où est passé Yazid d'ailleurs.
Moi, mes scènes préférées, enfin ma scène préférée, quand on casse le bras en chocolat.
C'était intense.
Ouais. Cette scène-là parce que je savais pas comment ça allait rendre. Parce que moi, je suis quelqu'un, je m'énerve pas. Enfin, je m'énerve jamais.
Et en fait, c'est une scène où ta vraie mère arrive et où t'es avec tes parents d'adoption, voilà, et que t'es en train de transporter quelque chose de fragile et qui se casse au mauvais moment. Voilà, pour résumer un petit peu.
Et surtout, ça fait des mois que je le prépare, etc. Donc, il y a toute cette tension qui est là. Et quand ça se casse, et ben, d'un coup, le temps s'arrête et on se dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai.
Tous ces mois de travail pour qui sont brisés en 1000 morceaux en un instant, et en fait on attend sa réaction.
Et quand j'ai vu le film, le public a été saisi par ce moment-là, justement j'ai entendu
C'était vraiment saisissant, quoi, ce moment-là, parce qu'on a ressenti la même chose avec le personnage finalement.
Et ouais, moi du coup, pourquoi vraiment c'est ma scène préférée, parce que c'était une scène où je voyais pas comment j'allais faire. C'est-à-dire que sur le moment, avec Seb avant, on se briefait un petit peu comment on allait la faire, parce que moi je dis attends, mais faut que je crie sur ma mère. Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je sois vraiment énervé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je balance le truc par terre ou? Et ouais, Seb il m'a donné toutes les indications, et après c'est sur le moment, quoi. Faut sortir ce que t'as au plus profond de toi, il faut aller chercher au fond.
Ouais, parce que il faut se rendre compte quand même que sa mère était un poison pour son parcours à Yazid, donc c'est très dur d'incarner ces scènes-là, en tout cas. Allez le voir, ça s'appelle À la belle étoile, ça sort mercredi au cinéma. Sébastien et Riyad, on va évoquer vos projets pour terminer. 2023, j'imagine que Riyad, ça va t'ouvrir des portes du cinéma, mais grande, ça, ce qui est en train de se passer là.
Ouais, après le plus important c'est de faire ce qu'on aime, ouais. De kiffer. Parce que moi, quand j'ai fait ce film-là, j'ai kiffé tous les jours. Il n'y en a pas un où j'étais pas en train de kiffer. Et voilà, c'est le plus important. Moi, faire des projets qui me font kiffer. Et après, voilà, pas se précipiter, faire les bons projets. Et voilà, tout simplement.
Après avoir fait tout en cuisine, et puis là maintenant le film de Sébastien, tu vas avoir envie d'ouvrir un restaurant, c'est pas possible.
Ça se trouve, j'ouvrirai un restaurant, faudra rester très 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 à l'affût. Hein, donc
Avec Cyril Lignac, tu vas voir des conseils, je te le dis moi. Sébastien, tes projets, est-ce que t'as déjà envie d'un nouveau film? Est-ce que t'as déjà des projets sur les rangs?
Le plateau me manque énormément, les comédiens me manquent énormément, j'ai très envie. Alors oui, bien sûr, j'écris, j'essaye d'être prêt au moment où ce film va sortir, parce que il faudra battre le fer tant qu'il sera chaud. Et j'ai surtout envie de faire faire une histoire qui soit aussi intense que À la belle étoile, parce que comme disait Riyad, ça a été un moment merveilleux de défendre toute cette histoire. Donc ouais, je travaille pour ça.
Et au niveau intensité, vous allez être servi. Allez voir le film À la belle étoile, c'est mercredi au cinéma. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, et on vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup, merci à vous.
Ben merci beaucoup.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, il y a du beau monde qui nous attend avec, pour commencer, notre spéciale fille de paysan. À cette occasion, Julie Manoukian sera accompagnée de Carole Bianic et Justine Lacroix pour venir nous en parler. On parlera évidemment aussi de la sortie du très beau film de Mélanie Offrette, Les Petites Victoires, avec Julia Piaton également qui viendra. Catherine Marchal sera également notre invitée avec toute l'équipe de Meurtre en Béarn. Et puis on parlera évidemment de la sortie de BDE avec Michael Youn, Vincent Dezania, Ryan Bensetti, Ludovic.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com, et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. Tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale. Un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.